Vous écoutez RTL.
Mon deuxième invité ce soir, c'est Maître Henri Leclerc qui publie chez Fayard La Parole et l'Action. Maître Leclerc, bonsoir.
Bonsoir.
Écoutez, cet après-midi encore, vous étiez au Palais de Justice de Paris.
Oui.
Vous défendiez un ou plusieurs, ou le groupe des jeunes gens qui sont soupçonnés d'avoir incendié une voiture de police pendant une manifestation. 8 ans ferme, 5 ans ferme requis. Est-ce que ça illustre, selon vous, le fait qu'on est rentré dans une société totalement punitive ?
Ben oui, écoutez, ces peines sont effroyables. Bien entendu, les faits ne sont pas très faciles à accepter. Bon,
ils ne sont pas glorieux.
Puis ce policier, cette policière qui ont été traités comme ça, c'est pas bien. Mais en même temps, il s'agit de savoir si ces gens-là sont coupables. Et surtout de quoi ? Parce que je vois, moi j'en défendais un seul, et c'est une infraction qui est une infraction Sarkozy, je dirais, d'une certaine façon, qu'on appelle la participation à un groupement destiné, etc. On sait même plus ce que c'est que le groupement. Enfin, c'est un petit peu une répression d'intention. Donc, tout ça, bon, on a demandé une peine de 18 mois avec sursis contre mon client.
Oui.
Première vue, c'est vrai. Oui. Sauf que s'il est innocent, c'est pas bien. Voilà.
Oui.
Donc, c'est tout. Cette affaire est une affaire de faits qui sont sérieux. Mais enfin, en même temps, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu de toi-bohu autour de ça. Et alors, des peines de 8 ans, c'est quand même tout à fait excessif. Même si celui contre lequel ça a été requis est en fuite en Suisse.
Maître Leclerc, vous avez toujours défendu des gens, vous êtes avocat de
la
défense,
bien sûr.
Sauf une fois dans un très grand procès qui était le procès d'Omar Radad.
Oui.
Vous étiez partie civile, donc...
Non, j'ai été d'autres fois partie civile,
vous l'avez été...
mais pas dans des affaires aussi célèbres.
Alors, plus célèbre, enfin, c'était celui-là. Jusqu'au bout, vous serez persuadé de la culpabilité de Radad.
Je le suis pour l'instant. Je n'ai pas vu d'éléments qui puissent me faire...
Il n'y a rien de neuf.
Je n'ai pas vu d'éléments qui puissent me faire douter. Et dans mon livre, je raconte non pas des choses que personne ne connaît, puisque je dis avec précision comment ma conviction s'est faite, et je raconte ma plaidoirie.
C'est oui.
Donc voilà. Donc je dis ce que j'ai dit là-bas, et moi je reste sur cette position.
Toute votre vie, Maître Leclerc, vous vous êtes aussi battu, et finalement vous avez eu gain de cause à partir de 81, contre la veuve, contre la guillotine et la peine
Bien
de mort.
Sûr.
Vous avez plaidé 5 fois contre la veuve
oui,
et
oui.
gagné 5 fois.
Oui.
Et il y a quelque chose dans le bouquin qui est extraordinaire. Un jour, à Aix-en-Provence, vous dînez avec Furbury,
oui.
qui est un de vos collègues. Après l'abolition de la peine, il vous dit, mais c'est terrible l'abolition de la peine de mort, parce qu'il n'y a plus le goût du sang aux assises, il n'y a plus la grandeur de la fonction. Il y avait ça avant.
Mais bien sûr, si vous voulez, je me suis disputé ce soir-là avec Furbury, qui est un type formidable et un très bon ami.
Oui.
Mais parce que quand même, c'était.
Mais c'est dingue le goût du sang.
C'était pas disponible. Mais c'est pas le goût du sang, c'est ce qu'il dit. Mais enfin, en définitive, c'est qu'il y avait là quelque chose de terrible, de tragique, qui engageait toute notre fonction, toute notre profession. On était au sommet de ce que nous pouvons faire, pas quand il s'agissait de sauver une vie. Mais en même temps, il est évident que ça n'empêche pas que la peine de mort est une horreur, et puis qu'il fallait l'abolir.
Et puis c'est pas dissuasif.
Non seulement c'est une barbarie, mais c'est une barbarie inutile. Ça n'a jamais empêché le moindre crime. Le nombre des crimes n'a pas augmenté en France quand on a abrogé la peine de mort, et dans les États américains, qui certains l'ont abrogé et pas d'autres, le nombre de crimes est le même, ça ne change rien.
Maître Leclerc, avez-vous refusé de défendre des gens ?
Très rarement, parce que mon problème est de m'accorder avec eux sur la façon dont ils veulent être défendus.
Oui.
Et il est assez rare dans ma vie que je n'ai pas trouvé un accord avec celui que je devais défendre. Mais quand nous ne sommes pas d'accord, eh ben je ne le défends pas. Mais voilà, c'est tout.
D'accord. Mais ne pas être d'accord, ça veut dire quoi ? Ça veut dire
par exemple,
que vous êtes persuadé qu'il est coupable, vous lui dites, écoutez, il faut avouer.
Voilà un exemple qui est possible, c'est-à-dire que quelqu'un dont... Je ne vais pas dire à premier vent dont je suis persuadé qu'il est mal, mais dont je suis persuadé qu'il n'est pas il ne m'est pas possible d'avoir un doute. Et donc, dans ces conditions-là, je lui dis, écoutez, on peut vous défendre autrement.
Oui.
On peut essayer d'obtenir que la peine soit, etc. Et s'il me dit, je tiens absolument à cette position, on réfléchit, parce qu'on peut se tromper aussi. Donc, à ce moment-là, il faut réfléchir. Mais ça m'est arrivé assez rarement.
Maître Leclerc, est-ce que, par exemple, vous défendriez le dernier survivant du commando du Bataclan ?
C'est une question qu'on m'a souvent posée.
Bon, là, il est mutique.
Ben,
il
c'est
est
exactement
prostré,
ce que j'allais vous dire. D'abord, on ne défend pas quelqu'un quand il n'est pas d'accord pour qu'on le défende.
Ouais.
Or, les terroristes ne sont pas forcément toujours d'accord pour qu'on les défende. Certains veulent pousser jusqu'au bout la dénonciation de la démocratie contre laquelle ils luttent. Et je rappelle que le bâtonnier de Turin, a été, Mathieu, je crois qu'il s'appelait, a été assassiné par les Brigades Rouges pour avoir commis l'office des avocats pour les défendre alors qu'il n'en voulait pas. Donc, ce n'est pas forcé. Et puis, si vous voulez, bon, là aussi, il faut être d'accord sur le système de défense. Moi, je ne vois pas sur quoi on pourrait se mettre d'accord, mais qui sait, je n'en sais rien.
Vous savez pas.
Non, mais attendez, à première vue, à froid, comme ça, ça paraît impossible de le défendre, évidemment. Ouais. Je suis comme tout autre, comme citoyen. Moi, j'ai des amis qui sont morts. Mais je sais qu'ils doivent être défendus.
Oui.
Et si vraiment ils me demandent de le défendre, alors je réfléchirai. J'essayerai, en parlant avec eux, de voir comment on peut défendre ces gens-là. Et ils doivent être défendus. Donc, il y a actuellement, d'ailleurs, des jeunes avocats qui sont commis d'office pour eux et qui font leur travail.
Et bien. Remarquablement et pas facilement.
Bien.
C'est moins qu'on puisse dire. Maître Leclerc, l'état d'urgence et ce qui ira après l'état d'urgence, c'est la fin, mais il y aura des lois, il y aura une loi très dure. Ça sert à rien ?
Ah non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, tout le monde en est d'accord. La commission des lois l'avait constaté à l'Assemblée nationale. Ça rassure. Mais en définitive, ce n'est pas ça qui permet de résoudre le problème du terrorisme. C'est qu'il faut une bonne police pour résoudre le problème du terrorisme. Une bonne police de renseignement, une bonne police... Puis il faut aussi une police qui soit capable de résister, de s'opposer, etc. Mais malheureusement, cette restriction générale des libertés qui était exceptionnelle et qui va devenir définitive, ne me paraît pas de nature à être un rempart efficace contre le terrorisme. Par contre, ça réduit les libertés.
Je rappelle que vous avez été pendant des années président de la Ligue des droits de l'homme, Maître Leclerc. Juste un truc pratique, parce qu'il y a tellement de choses dans ce très gros livre, là, très lourd. Vous dites, un avocat, il faut qu'il ait une voix. Il faut qu'il parle aux jurés, il faut qu'il les ensorcelle, en quelque sorte. Et il faut que, voilà, quelqu'un qui a une voix fluette, par exemple, ne peut pas être un grand avocat d'assises.
Mais si, le seul problème, c'est de se faire entendre.
Oui.
Et vous avez des gens qui ont des voix très fluettes, et au contrairement dit, les jurés tendent l'oreille pour les entendre, et du coup, ils les entendent mieux. Donc, la voix est un instrument, mais je crois que ça ne suffit pas. Je crois que la conviction ne se fait pas qu'avec une voix, ne se fait pas qu'avec l'émotion, ne se fait pas qu'avec des discours, elle se fait aussi par des raisonnements qui réussissent à convaincre les gens de ce que la cause que l'on défend est juste.
Et une dernière question, Maître Leclerc, est-il exact que votre maître s'appelle Albert Nau ?
Oui.
C'est un avocat donc, qui est décédé maintenant, qui était résistant et qui a défendu Pierre Laval.
Eh bien, bien sûr, Albert Nau était résistant, et pas un petit résistant, puisqu'il a été arrêté en 1941, au moment du réseau du Musée de l'Homme, donc c'est pas rien. Et à la Libération, il a été commis d'office pour Pierre Laval. Ouais. Il n'a d'ailleurs pas pu le défendre parce qu'on lui a fait un procès qui était un simulacre. Mais il a défendu, à ce moment-là, un certain nombre de collaborateurs avec cette idée, ou de traîtres même, avec cette idée qu'il faut les défendre et que la justice, ce n'est pas l'exécution sommaire. La justice, on juge les gens avec quelqu'un qui les défend.
Merci beaucoup, Maître Henri Leclerc. La parole et l'action, donc, chez Fayard. Super bouquin. Hein. Bon, il faut prendre le temps d'y aller, de se plonger là-dedans. Mais c'est vraiment pas un détour inutile. Merci d'être venu à RTL. Juste après avoir plaidé, vous mourrez à la barre, Maître Leclerc.
Je n'en sais rien, peut-être.
Vous le souhaitez ?
Non, je n'en sais rien.
Enfin, en tout cas, vous allez plaider encore.
J'ai encore plaidé aujourd'hui. Oui. J'espère plaider encore.
Mais pas de retraite.
On verra. Écoutez, je ne l'envie pas, mais enfin, vous savez. J'ai un âge où il faut quelquefois songer à s'arrêter. Et quelquefois, si on ne s'arrête pas, il peut y avoir une circonstance extérieure qui vous arrête de plaider par force.
Donc, vous n'avez pas l'air en mauvaise forme, en tout cas.
Je vous
souhaite une bonne soirée, un bon week-end, Maître Leclerc. Merci beaucoup.